technique, pas franchement académique. Tu comprends rien, c'est normal, pas de panique, on t'explique tout dans le générique de façon pédagogique. Le Tour Impro Club, alias Le Tic, débarque sur l'antenne de Campus avec sa clique. Une émission 100% improvisée, un animateur et quatre chroniqueurs inspirés qui brodent sans filet sur des thèmes aléatoires pondus par les auditeurs. Et même les plus absurdes, nous devons de leur faire honneur. Tu tombes sur nous et tu te dis c'est quoi ce truc-là ? Ben c'est pas compliqué, en fait nous-mêmes on ne sait pas de quoi ça va traiter, mais on va s'efforcer d'en parler et surtout d'avoir l'air de savoir où on veut aller. Tic-tac, tic-tac, c'est Le Tic qui passe à l'attaque. Pas d'impro en toc, on embraye du tac au tac. Laisse-toi emporter par nos chroniques sans queue ni tête. Quel que soit le sujet, c'est dans le vif qu'on le maltraite. Envoyés spéciaux, des univers imaginaires, là où on sème nos graines, la logique pousse de travers. Le Tour Impro Club s'empare de ta radio, rebondit sur les mots. Et si par malheur on s'embrouille et bafouille au micro, puisse la créativité prendre l'assaut de nos cerveaux.
La polka se danse en crabe. Saviez-vous ça, la polka se danse en crabe ? Eh bien oui, quand on danse la polka, on se met en crabe, on y va, pas à pas, tranquillement, peinard. C'est la nouvelle danse, elle va être dansée sur les tombes, sans doute, pour le 31 octobre, pour Halloween. C'est la danse à la mode, c'est la polka, la crabe polka. Bienvenue, je suis David Poujadiste, vous écoutez Les Improgrammables, l'émission improvisée qui prend l'antenne. Avant de savoir pourquoi, on vient d'en avoir la preuve, je suis ravi de vous retrouver. On va être ensemble pendant une heure, c'est une émission en direct et en public ici dans le studio de Radio Campus. Public, bonsoir. Vous nous écoutez en direct sur 99.5, pardon, ou en ligne sur internet directement. On vous invite aussi à réagir si vous le souhaitez sur notre page Facebook @letourimproclub. Vous verrez, il y a un événement et vous pouvez mettre des petits commentaires. Et si on s'en sort, eh bien, on lira vos commentaires en direct live. Sans plus tarder, je vais vous présenter les quatre impronanistes de ce soir. On l'a extirpé de sa maison de retraite et c'est la première fois qu'il est en direct ce soir. Jean-Pierre Pecno, bonsoir.
Bonsoir David.
La minorité visible est sans doute l'impronaliste la plus sérieuse de l'équipe. Bonsoir Suzy Salami.
Bonsoir David.
Il est crevé, mais il nous fait quand même l'honneur de sa présence. Je parle bien sûr de Jean-Michel Aplati. Bonsoir.
Bonsoir David.
Et enfin, sans lui, une émission serait comme un hammam sans serviette. On se sentirait tout nu. Bonsoir Jean-Marc Moramidi.
Bonsoir David.
Voilà, nous allons donc pouvoir commencer cette émission. Il faut d'abord s'assurer que le public a bien les neurones connectés pour assouvir notre soif de mots, puisque ces mots vont servir de base aux improvisations de ce soir. Donc public, avez-vous les neurones en place ?
Oui !
Eh bien, sans plus tarder, nous allons donc commencer cette émission avec une impronique. Et c'est Jean-Marc qui va s'y coller. Alors, public, il me faudrait un objectif du quotidien. Un objet du quotidien, pardon.
Raquette.
Une raquette, vous avez un drôle de quotidien. Un adjectif.
Bleu.
Un verbe.
Manger.
Comment ? Manger. On sent qu'il est 21h. Et un objet, n'importe quel type d'objet.
Chaise.
Une chaise. Alors, Jean-Marc, vous venez nous parler aujourd'hui d'un tout nouveau concept développé dans les très sélects bars parisiens, la raquette bleue. Alors, le principe est simple, hein, il s'agit de manger sa chaise. Vous allez nous expliquer tout ça très vite.
Voyons, qui peut me dire de quoi tout le monde parle en ce moment ?
Impronique.
Alors le brosseur, il a coupé les manettes.
On a creusé le sujet.
Et il te croque un oiseau merde et le beurre dans le coulon son berca.
Et on est tombé sur un os.
Oui, David, je viens vous parler ce soir d'une technique, une nouvelle fragrance, une nouvelle technologie, une nouvelle mode qui nous vient tout droit des bars les plus sélects de Paris. J'ai nommé la technique de la raquette bleue. Alors, à ne pas confondre évidemment avec la technique du cordage rouge ou bien entendu du pullover vert qui avait fait fureur, on se souvient, lors de l'été 2013. Donc la raquette bleue, en quoi ça consiste ? Eh bien, tout simplement, comme son nom ne l'indique pas, la raquette bleue consiste à manger sa chaise.
Alors, d'où vient ce nom, la raquette bleue ?
Eh bien, la raquette bleue, tout simplement parce que le premier pratiquant de cette discipline, hein, c'est savoir manger sa chaise, bien entendu, eh bien, c'était un tennisman bien connu des membres du club country du Bois de Boulogne. J'ai nommé Alistair Maugret.
Eh oui, bien sûr, on se souvient tous d'Alistair, il avait gagné Roland-Garros en 83, je crois.
Exactement, exactement, la fameuse finale face à Yannick Noah, que Yannick Noah, bien sûr, n'a jamais gagné, hein. On le sait tous. Donc, effectivement, Alistair Maugret, qui est le premier à avoir mangé sa chaise, eh bien, pourquoi ?
Eh bien, pourquoi ?
Eh bien, pourquoi ? Évidemment, les auditeurs se le demandent, tout simplement dans un geste transgressif. Oui, vous avez bien entendu, puisque cette chaise était la chaise de l'arbitre de cette fameuse finale de 1983 qu'Alistair a réussi à retrouver dans le fameux Country Club de Boulogne. Et donc, il a mangé cette chaise en souvenir du bon vieux temps pour, quelque part, manger sa victoire, savourer à nouveau le parfum de cette jeunesse. Eh bien, effectivement, David... La technique de la raquette bleue, c'est savourer sa jeunesse, revenir dans sa jeunesse, retrouver l'éclat et l'âme d'antan. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous devriez tous manger votre raquette bleue pour vous rappeler, évidemment, les bons souvenirs, les bons moments de votre jeunesse.
Une petite Madeleine de Proust, on espère qu'elle va arriver très bientôt sur les bars de la place Plumereau, chez nous, ici en région. Merci Jean-Marc. Nous allons tout de suite passer à l'impro-terview. Alors, il me faudrait... s'il vous plaît, public, un prénom.
José.
Une fleur.
Une tulipe.
Un objet de la salle de bain.
Brosse à dents.
Je l'attendais, celle-là. La brosse à dents. Un adjectif.
Beau.
Et enfin, il y aurait beaucoup de choses pour cette impro-interview. Un autre verbe, s'il vous plaît.
Dormir.
Et un objet qu'on trouve dans une cave.
Une bouteille,
c'est une excellente réponse. Eh bien, pour cette impro-interview, Jean-Pierre, vous allez nous parler, vous venez dans notre studio... pour parler avec José Tulipe. Alors José Tulipe vient de se déclarer candidat au municipal à Tours, hein, tête de liste du parti de la brosse à dents bleue. Sa principale mesure, dormir avec les bouteilles. Il y a un jingle, mais vous ne l'entendez pas.
Excuse-moi, je t'ai coupé là. Qu'est-ce que tu disais ?
Merci André à la technique.
Oui, bonjour Monsieur Tulipe.
Bonjour Monsieur Pecnot.
Alors, nous vous recevons aujourd'hui dans notre studio, car vous avez fondé un parti pour le moins original et qui commence à faire couler beaucoup d'encre, peut-être même à inquiéter l'opposition, n'est-ce pas ? Il s'agit du parti de la brosse à dents bleue, dont une des mesures phares consiste à proposer à nos concitoyens de dormir avec les bouteilles. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus déjà sur la fondation de ce parti ? Comment est venue cette idée ? Pourquoi ce nom étrange de la brosse à dents bleue ? Et ensuite, on reviendra sur cette proposition qui ne manque pas de faire polémique.
Tout d'abord, Monsieur Pecnot, vous avez qualifié mon parti comme étant original. Si être hors des sentiers battus, c'est original, je le prends comme un compliment. Ensuite, concernant l'origine de la brosse à dents bleue, je pense que la brosse à dents est un objet citoyen, un objet que tout le monde a, peu importe les revenus. C'est un objet qui est populaire, qui est très connu et bleu comme la pureté, comme un peu le symbole de la citoyenneté en France. Donc la brosse à dents bleue comme geste citoyen et comme geste solidaire vis-à-vis de ses voisins.
Et alors concernant cette mesure, donc vous avez déclaré récemment que vous souhaitiez voir chaque Français dormir avec les bouteilles au moins une fois par an. Et selon vous, ça aurait des vertus pédagogiques. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer la raison de cette étrange mesure ?
Tout à fait, nous connaissons tous la forme de la bouteille et lorsque on boit la bouteille, on voit un peu l'analogie comme retourner auprès de sa mère, de sa maman et retourner dormir avec ses bouteilles, c'est un peu revenir à l'origine, se recentrer sur soi et repartir avec des idées plus pures, voyez-vous.
Alors, que diriez-vous à vos détracteurs qui ont tendance, d'aucuns plutôt mauvaise langue, vous accusent d'avoir un peu trop justement dormi avec les bouteilles et pour en arriver à ce genre de proposition un peu farfelue, il faut bien le dire.
Je pense que ces personnes-là ont trop vite fini de boire leur bouteille avant de pouvoir dormir avec, voyez-vous.
Bien. Que diriez-vous à vos opposants principaux, n'est-ce pas, les partis de la brosse à toilette, qui récemment ont eu des mots très durs à votre rencontre?
Eh bien, nous le savons tous que le parti des brosses à toilettes, c'est quand même... nous sombrons là, mon cher Jean-Pierre Pecno, dans le populisme le plus complet. Moi, je ne suis pas à la course aux voix, je suis à la course à l'honnêteté, monsieur Pecno, qu'on se le dise.
Alors, on vous a accusé un peu de clientélisme récemment, puisque vous avez procédé à une distribution gratuite de bouteilles lors d'un meeting électoral. Mmh. Est-ce que ce ne sont pas là des méthodes un peu déloyales?
Eh bien, voyez-vous, je pense que la bouteille a le droit d'être... d'être mis dans les mains de nos enfants, dans les mains de nos femmes et de nos pères. Si on me dit que je suis clientéliste, eh ben écoutez, je prends la remarque telle quelle. Cependant, moi, ce que je vois, c'est le sourire, les yeux écarquillés des personnes qui reçoivent ces bouteilles. Et ça, monsieur Poujadiste, monsieur Pecno, pardon, excusez-moi, ça n'a pas de prix.
Bien, eh bien, nous vous remercions pour cet éclairage précieux sur votre programme.
Je vous en prie.
David, je pense que nous avons appris beaucoup de choses à l'instant.
Et oui, nous avons appris qu'il y avait une 15e liste pour ces municipales à Tours. Décidément, que de surprises. Merci beaucoup. Et nous allons tout de suite passer à l'improlémique. L'improlémique, c'est le débat de la rédaction des Improgrammables avec nos grandes voix à nous. Un débat qui s'annonce passionné et passionnant avec nos deux impronalistes, Suzy Salami et Jean-Michel Aplati. Alors, cher public, il me faudrait pour ce débat un animal. La panthère, très bien. Une couleur, mais une couleur originale.
Indigo.
Indigo, c'est très bien ça. Très bien. Et un verbe, mais là aussi un verbe original.
Crucifié,
c'est très original, effectivement. Eh bien, nous allons lancer le jingle. André, vous êtes prête?
Parce que c'est notre projet!
Je vous ai compris! Vive la République!
Je vous demande de vous arrêter.
Vive la France!
J'en avais assez de cette bande de racailles.
Un problème.
Ils ne vont encore pas être d'accord.
Merci, André. Eh bien, les dernières annonces du CSA concernant les panthères indigo ont déclenché une vague d'indignation chez les fans de Cyril Hanouna. Et effectivement, le CSA reproche à l'animateur vedette de crucifier les panthères indigo, quand bien même Brigitte Bardot venait d'obtenir leur protection. Alors, le débat fait rage sur la twittosphère, hein, mais aussi dans la rédaction. Alors, Jean-Michel, vous soutenez publiquement Cyril Hanouna, hein, vous ne vous en êtes jamais caché, mais vous faites face ce soir à notre estimée et estimable collègue Suzy Salami, qui, elle, est à l'origine d'une pétition contre ces pratiques indignes de l'animateur vedette. Bonsoir tous les deux.
Bonsoir David.
Alors qui veut commencer à introduire cette improlémique?
Alors je vais tout de suite me permettre de prendre la parole face à Jean-Michel Aplati.
Je vous en prie.
Que je respecte énormément mais qui sur ce coup-là, si vous voulez, est complètement à côté de la plaque. Hein, je ne vais pas mâcher mes mots Jean-Michel, je vais vous le dire tout de suite. Qu'est-ce qu'on appelle les panthères indigo? Ce sont toutes les femmes de 50 ans albinos. Hein, c'est une métaphore. Ce qu'on appelle les panthères indigo, ce sont donc des femmes qui souvent portent des imprimés léopard. J'en fais partie, monsieur. C'est pour ça que je prends la question très à cœur, si vous voulez. Qui sont albinos. J'en fais plus ou moins partie également, puisque je suis daltonienne, donc c'est plus ou moins similaire. Il est inconcevable, et je ne mâcherai pas mes mots, je le dis encore une fois, que monsieur Hanouna, prénommé Cyril, continue de la sorte à nous humilier. C'est une humiliation, puisque cette façon de nous photoshopper sur les réseaux sociaux et de nous assimiler avec quatre panthères au niveau de la tête, des pieds, de la main gauche et de la main droite, je ne vois pas le rapport.
Alors vous avez demandé des excuses publiques, hein, Cyril Hanouna a refusé. Je serais intéressé de vous entendre, Jean-Michel, sur cette question. Alors vous soutenez publiquement Cyril Hanouna ?
Exactement, et quand une Suzy Salami me dit que je suis à côté de la plaque, et ben excusez-moi d'être à côté de la plaque en soutenant, je pense, l'homme de notre siècle, l'esprit de notre génération soutenu par 90% des Français. Alors, je pense que cela est parti d'une blague. Alors, une blague s'adresse généralement aux gens qui ont de l'humour, Madame Salami. Oh, et je tiens à afficher mon soutien auprès des personnes albinos parce que... moi-même, mon bronzage ne tient pas. Alors, je m'y reconnais quelque part.
C'est une honte ce que vous êtes en train de faire, là, monsieur Jean-Michel. C'est une honte. Vous êtes ouvertement au micro, en train de nous humilier une fois de plus. Mais qu'est-ce que vous cherchez, non ? À nous parler de votre bronzage, mais peu importe, vous faites des UV, monsieur. Donc, qu'est-ce que vous venez nous dire à propos des daltoniens ? Vous n'y connaissez rien, monsieur. Vous avez des problèmes d'UV, ça n'a rien à voir.
Je pense que jusqu'à maintenant, les femmes qui portaient des imprimés léopards... n'était pas considéré, n'était pas mis en avant, et aujourd'hui, grâce à ce buzz, vous êtes mis en avant, madame. Alors, évidemment, peut-être à vos dépens, pensez-vous, mais cela a de l'humour. Et eussiez-vous l'idée, l'audace d'utiliser cet humour et de vous mettre en avant, je pense que cela vous porterait grande presse.
Alors c'est vrai, Suzy, que Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, est allé jusqu'à parler de votre cas dans les écoles. Donc il y a une vraie répercussion pour vous, plutôt positive pour le coup, non ?
Mais, excusez-moi, mais on parle des imprimés panthères et les imprimés à pois et rayures, quid de ces imprimés ? Mais dans quel monde vit-on, franchement ? Dans quel monde vit-on ? Ça ne vous dérange pas ? Toutes ces rayures improbables mêlées en plus avec des points, ça ne vous dérange pas ? Par contre, une imprimée léopard, ça vous gêne ?
Alors, puisque vous en parlez, justement, Monsieur Vuitton a réagi. On a un enregistrement, il a tenu à nous... parler de ces rayures léopard.
Oui, alors effectivement, les rayures léopard, c'est moi qui les ai inventées en 1942. Bon, la date n'a pas d'importance, bien entendu.
Voilà, un témoignage précieux hein, que nous avons, il les a inventées en 1942. Alors, ça vous laisse sans voix, tous les deux ?
Eh bien, écoutez, tout à fait, ça c'est un plan de notre histoire que je ne connaissais pas. Mais pour rebondir... Madame Salami, si cela peut vous rassurer, depuis une semaine, nous connaissons quand même une croissance de la production des pantalons léopard made in France. Alors, cela vous crée peut-être de l'infortune, mais de la fortune pour l'économie française.
Mais monsieur, mais on est complètement hors débat, vous êtes complètement à côté de la plaque. Écoutez, au nom de toutes les panthères indigo que je représente, ce n'est pas vous, monsieur Jean-Pichel aplati,
Jean-Pichel.
Oui, monsieur Jean-Pichel. Oui, monsieur Jean-Pichel aplati.
S'il vous plaît, s'il vous plaît. Écoutez, je crois que le débat suscite des réactions vives dans le studio. Ah, je vois qu'il y a une réaction sur Internet. Ah non, c'est ma mère qui demande si j'ai bien pris mon goûter. Non, il n'y a pas de réaction de la part de nos auditeurs. Hein. Je crois que, en fait, tout le monde s'en fout des panthères. Je suis désolé, Suzy, c'est pas un sujet qui a suscité le débat. Il est temps, merci beaucoup vous deux, il est temps pour nous de marquer une pause musicale et nous allons écouter Saint-Lô pour un titre bien franchouillard puisqu'il s'agit de Flight and Fantasy. Come back, yeah. I've got something in my pocket, you better come check for me. Something lost and then forgotten, you wasn't supposed to this see. This love is like a stone that won't roll. Steady, steady, and then we hold. Stepping on a crack burning down the stove. All this to say that rocks in the way. I've got something in my pocket, you better come check for me. Something lost and then forgotten, you wasn't supposed to see. And if I told you once or twice, we go together like flying in fantasy. Yeah, you and me, we run through jungles in the city. And if I was on your mind, each and every time you see.
Vous écoutez les improgrammables.
Les improgrammables.
Ah là là, sacré André à la technique qui nous fait des petites blagounettes comme si on était un 1er avril. On s'y croit, faudrait la voir hein, si c'était filmé. André, elle est morte de rire sur sa console. Nous, ça nous fait pas rire du tout, André, hein, ici. Je crois que vous pouvez vous mettre, vous pouvez vous auto-mettre une boule noire, s'il vous plaît. Oui, oui, oui.
C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, alors reprenons.
Voilà, c'est la première fois que notre technicien a une boule noire. Alors nous allons tout de suite reprendre cette émission. Vous êtes donc toujours sur les improgrammables, l'émission qui prend l'antenne avant de savoir pourquoi, 100% improvisée sur le Tour Impro Club. On vous invite toujours à réagir sur notre page Facebook, hein. On s'avoue un peu déçu. Le Tour Impro Club, hein, le Tour Impro Club, on essaye de lire ça, on est au taquet. Et pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose, mais on est sûr que vous êtes sur l'antenne, vous nous écoutez. On en est absolument convaincus. Et nous allons tout de suite passer à l'improplex avec notre ami Jean-Michel Aplati. Alors, cher public, vous êtes toujours là ?
Oui !
Ah, mais oui, plus que jamais là, il me faudrait, cher public, un village de France.
Marseille.
Alors, Marseille, ça commence à être un gros village quand même, hein, mais je le prends, mais c'est du bon village. Un chanteur des années 80, ou une chanteuse ?
Jean-Luc Lahaye.
Jean-Luc Lahaye. Très bien. Et un objet.
Oh.
Comment ?
Un micro.
Un micro. Très bien. Eh bien, un proplex.
L'improplex.
Identifiez-vous et dites-moi où vous vous trouvez.
Vous nous recevez ?
Allez-y, mon vieux, vous êtes en direct.
Mais qu'est-ce qui se passe sur cette île ? On dirait un crétin qui fait semblant d'aboyer.
Jean-Michel, est-ce que vous m'entendez, Jean-Michel ?
Oui, David.
Oui.
Oui, je vous entends très bien.
Bonsoir Jean-Michel. Alors vous êtes en direct de Marseille, hein, donc c'est quand même pas la porte à côté. Il fait quel temps à Marseille ?
Eh ben écoutez, il fait très très beau, je suis en t-shirt.
Ah oui, eh ben vous avez bien de la chance. Alors vous êtes en direct de Marseille, hein, où Jean-Luc Lahaye vient d'officialiser sa candidature à la présidence du jury de Miss France 2020. Alors cette annonce n'intervient pas au hasard, elle intervient alors que Geneviève de Fontenay a chuté à cause de son micro. Alors vous qui êtes sur place, est-ce que vous savez s'il y a une candidate préférée ? Comment compte-t-il régler le problème récurrent du défilé en bikini ?
Eh bien écoutez, tous les regards se portent aujourd'hui sur Miss Creuse qui a réussi à détourner tous les regards des jurés.
Ah, Miss Creuse qui va se présenter, vous pensez ?
Eh bien écoutez, ça en a tout l'air, sauf événement qu'on ne peut pas prévoir, un peu comme ce qui s'est passé il y a 2 ans, souvenez-vous, lorsqu'un talon a cassé et que la Miss Berry a dévalé un étage sur les dents. C'était absolument terrible, j'en tremble encore.
Mais alors, comment Geneviève a-t-elle pris la candidature de Jean-Luc Lahaye à la présidence ?
Eh bien écoutez, Geneviève, ce n'est plus ça depuis son accident de micro. Selon son entourage, à l'annonce de l'élection de Jean-Luc à la présidence, elle aurait dit Et sa famille l'a fait répéter et elle s'est exclamée
Quand même,
donc je pense qu'il y a une certaine colère derrière ça. Surtout que Jean-Luc Lahaye, lui, il a quand même joué stratégique puisqu'il utilise désormais des micros sans fil.
Alors je crois que vous êtes justement à l'endroit où le jury est en train de se décider. Est-ce que vous apercevez Jean-Luc Lahaye de là où vous êtes ?
Bien écoutez, je crois voir un... Non, c'est bien sa coiffure, David.
Est-ce que vous pourriez essayer d'avoir un petit mot de lui, s'il vous plaît ? Est-ce que c'est possible ?
Je m'approche, excusez-moi, parce qu'avec la laque, ça brise, ça m'éblouit, c'est... Je ne sais pas si c'est la coiffure ou le talent de Jean-Luc qui... Excusez-moi, pardon.
C'est un moment historique que nous vivons ici.
Laissez-moi passer, attendez, parce qu'il y a pas mal de fans, quand même, vous connaissez le succès de Jean-Luc. Jean-Luc ?
Oui, bonjour.
Bonjour Jean-Luc, je suis en direct de Radio Campus avec David Poujadis qui n'est plus à présenter. Cher Jean-Luc, je viens vous voir évidemment pour votre nouveau mandat à la présidence de l'élection des Miss France.
Je crois qu'il y a un gros malentendu. Je ne me présentais pas du tout pour être le président du comité d'élection de Miss France. Je me présentais en tant que Miss cette année.
Alors c'est un scoop que nous venons d'avoir ici en direct. Écoutez, Jean-Michel, c'est un vrai scoop, là. Est-ce que vous pouvez nous confirmer cette information?
Eh bien, écoutez, j'ai devant moi un Jean-Luc en bikini qui est prêt à fouler le podium, en effet.
C'est là où la radio, c'est vraiment décevant. Promettez-moi de ramener une photo de Jean-Luc en bikini, je vous en prie. C'est un vrai scoop, mesdames et messieurs, que notre journaliste, notre impronaliste vient de nous donner en direct live. Jean-Luc Lahaye se présente cette année, en décembre 2020, au concours de Miss France. Pour quelle région? Savez-vous pour quelle région il concourt?
Jean-Luc, pour quelle région concourez-vous?
La Franche-Comté.
La Franche-Comté, David.
J'adore le maroilles.
La Franche-Comté, c'est formidable, c'est formidable. La Franche-Comté. Eh bien, écoutez, souhaitez-lui bonne chance de la part de toute la rédaction. Hein. Je vois tous les collègues autour qui sont en transe, en fait, face à cette nouvelle. Je pense que c'est la nouvelle sur laquelle nous reviendrons peut-être au cours de l'émission. C'est absolument extraordinaire. Nous sommes ici tous surexcités.
Dites-moi, Jean-Michel, entre nous. On est plus en direct, annonce. Là, c'est bon?
Non, je ne pense plus, le micro est coupé. Eh bien, écoutez... Venez me voir à la loge et on en discute.
Oh, pas de problème.
Jean-Michel, c'est gênant. C'est gênant, Jean-Michel. Je vous propose de passer...
Ah, pardon, David.
À la suite. Merci, Jean-Michel. On vous reprend très bientôt. Et nous allons passer à...
Cramable !
L'émission improvisée qui prend l'antenne...
Avant de savoir pourquoi...
Ah, André, cette petite farceuse, elle continue de nous étonner tous les jours. Eh bien, André, si j'en ai l'autorisation, je vais passer à l'improculture avec notre journaliste Jean-Marc Morat-Midi. Alors, cher public, je vais encore vous mettre à contribution. J'aurai besoin d'un prénom, ancien.
Robert.
Un fruit?
Pardon ?
Un kaki.
Un kaki. Un vêtement. Un vêtement, oui.
Chemise ?
Une chemise. Un adjectif.
Brillant.
Brillant. Très bien. Et enfin, une pratique sportive.
Saut de haie.
Le saut de haie. Alors, mon cher Jean-Marc Morat-Midi, c'est la petite dose de culture que vous allez nous donner aujourd'hui. L'improculture du jour nous emmène dans les salles obscures avec le dernier film de Robert Kaki. Ce dernier film qui s'intitule « La chemise brillante » nous plonge dans l'univers du saut de haie.
Improculture.
Qu'une fleur ou un fruit sont embellis, grossis par la culture.
Improculture.
Que graine de pépins ainsi, plus un homme cultive sa tête, moins il est propre à l'admiration au travail de ses mains.
Il va la fermer sa gueule!
Bonsoir Jean-Marc, ravi de vous retrouver pour cette improculture. Vous êtes allé
bonsoir,
au
David.
Cinéma hier, vous êtes revenu des étoiles plein les yeux. Alors, est-ce que vous pouvez nous pitcher ce film, La chemise brillante?
Oui, alors tout à fait, David. Hier soir, j'étais au cinéma, comme d'habitude, je me baladais sur l'avenue à la recherche d'un inconnu. Et c'est là que je l'ai vu, c'est là que je l'ai vu, cette magnifique affiche de La chemise brillante, un film de Robert Kaki. C'est un film qui m'a bouleversé, c'est un film qui se meut dans un univers un petit peu parallèle, qui est l'univers du saut de haie, le saut de haie, bien entendu, le saut d'obstacle, le cheval d'arçon, les petites haies disqualifiantes, tout ça. Voilà, c'est un film qui m'a bouleversé, David.
Très bien, alors c'est donc le quatrième opus hein, de la saga de Robert Kaki. On rappelle que les trois premiers concernaient les stades d'athlétisme toujours. Hein. Alors dans cet opus-là, il met en scène quelque chose d'absolument extraordinaire avec un athlète béarnais, je crois.
Oui, tout à fait. C'est un athlète béarnais qu'il est allé chercher au fin fond d'une vallée. Je crois que c'est le petit cousin de Jean Lassalle, mais je n'en suis pas sûr. En tout cas, cet athlète béarnais qui s'appelle Chipourou, hein, c'est un basque en réalité, il a décidé de mener sa vie. Grâce au saut de haie, grâce au saut d'obstacle, il monte à Paris, il rencontre un ami guatémaltèque, un certain Couscoulé, et grâce à ça, il fonde une famille ensuite. C'est un film bouleversant, hein, vraiment. C'est un parcours de vie, c'est sauter la vie, sauter les obstacles, sauter les barrières les unes après les autres. Mais je pense que le mieux, c'est d'écouter un extrait. C'est...
Oui, voilà. Nous avons effectivement un extrait de ce film.
Je pense que sur 110 mètres, je ne raterai aucune haie. grâce à mon entraîneur qui me soutient depuis tout le début de ma carrière.
Il ne sait pas qu'il a été dopé à son insu.
3, 2, 1, go!
Et le voilà qui se lance sur la piste. Oui, il prend une bonne longueur d'avance sur ses concurrents. Oh là là, il est en train de tous les avoir. Il est là, il est là. Et ah, la chute avant le bout de la piste. Blessé, humilié, fripé, le voilà boitillant, mais il ne renonce pas. Il avance sur une jambe jusqu'à la ligne d'arrivée, sous l'ovation du public.
J'arriverai à vaincre sa dernière haie en levant ma jambe avec mes bras. La ligne d'arrivée n'est plus qu'à 2 mètres. Je rampe sur les coudes.
Go, Robert! You can do it, you Robert!
Je l'ai fait.
Waouh! Alors, c'est vraiment bouleversant cet extrait.
Oui, tout à fait. Je pense que le message à retenir de ce film, c'est. Il avance.
Il avance. Alors, une autre question, Jean-Marc, peut-être pour comprendre, sans toutefois spoiler totalement le film. La chemise brillante. En fait, on apprend au cours du film que cette chemise brillante lui donne un pouvoir relativement extraordinaire et que ce pouvoir lui viendrait justement des fins fonds du Béarn, d'une source plus exactement, une source d'eau brillante qui lui donnerait quelque part une vie éternelle, si j'ai bien compris.
Oui, tout à fait. C'est la source de Puy-Gourou, au fond de la vallée de l'Espugue. C'est effectivement une chemise qui lui donne des pouvoirs surnaturels dans le sens où il peut... Eh bien, dépasser les obstacles, justement, se décupler, se transcender, se démultiplier. Et c'est comme ça que, finalement, il arrive à la victoire finale.
Très bien, je crois que c'est une belle leçon de vie, ce film. On vous engage à aller le voir, hein. Il est sorti la semaine dernière. Je vous rappelle le dernier film de Robert Kaki, Chemise brillante. Si vous aimez les stades d'athlétisme, vous serez conquis, j'en suis absolument certain.
Allez le voir, c'est vraiment bouleversant.
Merci Jean-Marc, vous êtes toujours sur Les Improgrammables et une respiration s'impose dans notre émission et c'est Suzy Salami qui va retenir son souffle pour cette nouvelle chronique bien-être. C'est à vous Suzy. Merci Suzy, on se sent vraiment beaucoup mieux et beaucoup plus détendu. Vous nous avez offert 10 secondes d'improxygène. Reprenez vos esprits ma chère et enchaînons tout de suite. Nous allons passer, après cette petite pause, à l'impro-portage de la rédaction. Alors pour cela, cher public, là, il faut vraiment que vous soyez au taquet de la contribution. Je vais avoir besoin que vous me donniez un quartier de la ville de Tours.
Et Prébende.
Les prébendes, très joli quartier. Un objet qu'on trouve chez un garagiste.
Clé à molette.
Une clé à molette, j'aurais parié sur ce mot. Et enfin, une marchandise que l'on trouve chez le boulanger.
Une miche.
Une miche. Alors, Jean-Pierre, vous êtes allé dans le quartier des prébendes en immersion. Dans le club des clés à molette, cette société secrète, en effet, défend corps et âme la place des miches dans les concessions automobiles.
L'improportage.
Jamy, viens voir. Je suis dans une plantation de cannabis.
On vous emmène.
Comme tu ne risques pas d'en trouver en France.
Ça y est, c'est allumé.
Au bout du monde.
Et voilà, là je suis à l'ouest.
Alors, Jean-Pierre, avant de lancer le reportage, l'improportage, je voulais quand même voir avec vous, ça va ?
Ça va. C'était une expérience assez éprouvante. Vous pourrez vous en rendre compte en écoutant le reportage. Sachez que les prébendes ont bien changé et que depuis quelques années maintenant, on ne peut pas s'y rendre. On n'est pas forcément le bienvenu quand on est journaliste. Il y a beaucoup de choses à cacher, visiblement, aux prébendes. Et c'est pourquoi j'ai eu recours au service d'un fixeur. Alors, pour les gens qui ne connaissent pas trop la profession, il s'agit de quelqu'un qui connaît les réseaux, qui connaît les contacts et qui a pu m'introduire dans, voilà, dans cette jungle urbaine que sont les prébendes de 2019.
Bien, eh bien, nous allons tout de suite écouter cet impro-portage.
8h du matin, dimanche, un dimanche pluvieux de novembre. Les rues sont presque désertes. J'avance dans le froid et je croise soudain une petite famille qui visiblement se rend à la messe.
Hé, maman, c'est encore loin l'église ?
Le petit garçon blond interpelle sa mère.
Allez maman, s'il te plaît, j'ai trop envie de voir le curé.
Il veut aller à l'église.
S'il te plaît maman, le curé.
Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que l'église a été rasée il y a maintenant 2 ans. Rasée par le club des clés à molette. Le club des clés à molette, une société secrète qui a commencé à se développer il y a quelques années dans le quartier. Pour découvrir leur motivation, nous allons essayer de les trouver, mais ils se font discrets. Il me faudra d'abord nouer un lien de confiance avec les habitants pour enfin obtenir une adresse. Et me voilà devant cette petite bicoque qui ne paye pas de mine de l'extérieur, mais visiblement il s'agit d'un ancien garage délabré. Je pousse la porte qui grince, j'entre dedans et je tombe nez à nez avec Robert.
Alors, ça fait maintenant bientôt 1 an et demi que nous avons investi les lieux pour mettre au profit notre passion de la mécanique ici dans ce petit garage associatif. Voilà, au sein des prébendes. Alors, c'est vrai qu'au début, on a dû faire un petit peu notre place, hein, parce qu'on n'était pas forcément les bienvenus vu qu'on a démonté l'église. Mais aujourd'hui, voilà, on fait maintenant partie des murs, comme on dit.
Autour d'un café, les paroles se délient, les langues se délient, et Robert, qui au début était entouré d'un certain nombre d'hommes plutôt menaçants, équipés de clés à molette, commence enfin à se confier, à nous montrer qui il est vraiment.
Alors, Nous, le but, c'est pas du tout de faire peur, c'est vraiment de louer un lien associatif, c'est-à-dire qu'il y a plein d'amateurs de mécanique qui ont pas trouvé leur place ici au prébende. Et donc, on a réussi déjà autour d'un café de tisser des liens. Et puis là, j'ai noué d'amitié avec une boulangère qui faisait des baguettes et elle m'a offert un jour une miche. Et en ramenant cette miche, je me suis rendu compte qu'on pouvait couper la miche en tranches, donner la tranche à ses voisins et ainsi, avec une miche, réunir 15 personnes, monsieur. Et de 15 personnes en 15 personnes, on en arrive à un quartier qui est aujourd'hui très solidaire.
Il nous donne l'adresse de Sylviane, la boulangère dont il était question. Nous partons à sa rencontre et découvrons une boulangerie à l'étal riche de miches.
Je préfère que vous m'appeliez Réglisse. Dans le milieu du club de clé à molette, je préfère garder l'anonymat. Il est vrai que nous avons fait une association entre le club de clé à molette et ma boulangerie. J'ai ainsi pu fournir diverses boules de pain avec diverses levures qui permet finalement, si vous voulez, au moteur de prendre d'assaut toutes ces moteurs et ainsi de contribuer à ce qu'on appelle la disparition de l'essence. Puisque nous voulons, et c'est une revendication, nous voulons qu'en quartier des prébendes, la levure soit le moteur, soit l'essence de notre vie à proprement parler. Nous allons même plus loin, monsieur, je vais vous le dire, puisque tous les arbres, ce sont des opérations nocturnes qui nous prennent énormément de temps, tous les arbres sont taillés en forme de chouquette. Monsieur, et c'est également une revendication. Nous voulons mettre à l'honneur le savoir-faire français, monsieur, le savoir-faire tourangeau, car il y en a ras-le-bol de ceux qui nous imposent des produits étrangers. Et je tiens à continuer, monsieur. Je voulais également vous parler de ce qu'on
je
appelle
finis par
dans le milieu.
Couper le micro, car Josiane, Sylviane m'emmènent trop loin. Et par ce dimanche pluvieux de novembre, et le soleil qui se couche sur le quartier des Prébandes, je repars avec mes bandes, mon enregistrement, plus confus encore que j'étais arrivé.
Waouh. Eh bien écoutez, Jean-Pierre, ce reportage me laisse sans voix et je vous propose de nous remettre de nos émotions en écoutant un titre, Allo Cubano.
Allo Cubano, botella rotta, la tua mano, chica por doquier, con cerca de guano.
Aquí mi vida para los mareados.
París para ser exacto de Chewam, donde están los de la nueva generación. Son y mira, ponte en el fuego de la acción, con presión de la lírica, mística, psíquica. La rumba ha comenzado con Anga, Flaco Pro, el negro y Yoruba, hijo de Gua, Candela. Escucha cómo suena, no hay más nada. Sonido fuerte, ardiente y pegajoso. Sinceroso, te destrozo. Mi flow que calma sin fatiga a los nerviosos. Con mi conexión, controlando bien mi lengua. Pegado hasta el techo, quiero que lo entiendas.
Botella rota, bajo abajo. Porto piel, con chaca de guano. Aquí mi vida para los mareados.
A los cubanos, botella y ron, tabaco a mano. Chica, porto piel, con chaca de guano.
Aquí mi vida para los mareados.
No hay que me pare.
Aquí mira, voy a seguir. Yo represento Romulata, Cuba hasta el fin. Mi oricha como un imperio voy a construir. Yo hoy te dejo mi tema como mi emblema, se finí.
No, no te vayas.
Diciendo dicha el mundo pa' la valla. De oriente hasta occidente gritamos a la batalla. Mi gente en talla y toma el jack que te desmaya. Ay, ay, y te me callas.
Ya te lo dijo el guerrero. Ruso, flaco, bro y Roldán. De banana, kibicán. Con un estilo rumbero. Hay que quitarse el sombrero. Frente a mi oricha equipo.
Les Improgrammables.
L'émission improvisée qui prend l'antenne
avant de savoir pourquoi.
Vous écoutez toujours les Improgrammables sur Radio Campus Tour 99.5 et je propose une ovation pour André qui a lancé le bon jingle au bon moment. Bravo André, on est vraiment fiers, hein. Bravo André. Donc on vient d'écouter Allo Cubano d'un groupe que vous chazamerez si vous voulez en savoir plus. Et nous allons passer à l'impro trottoir puisque les improgrammables sont à votre écoute, vous le bas peuple. Et nous sommes tellement à votre écoute que nous avons un certain nombre de personnes qui nous laissent des mots sur internet, hein, comme quoi l'appel n'a pas été vain. Il y a notamment une certaine Mélissa Radio Campus Tour qui a laissé un certain nombre de mots. Donc c'est elle et ses comparses qui ont décidé des mots qui vont servir de base à cette impro trottoir. Alors c'est Suzy Salami qui est allée sur les marchés de Touraine aujourd'hui. Et Suzy Salami, vous êtes allée parler de la cancoyotte. La cancoyotte, la dernière trouvaille du ministère de l'Éducation nationale, hein, d'une rare violence qui a pour but de divulgâcher les enfants de classe de maternelle. Alors, une fausse bonne idée ?
Un pro trottoir. Please mind the gap. Attention à la marche. Aucun devoir nécessairement du trottoir.
Il y a pas de temps.
On arrive au boulot.
On a vu un véritable enfer.
C'est au gouvernement.
C'est inadmissible.
Faut que ça s'arrête. Véritable prise d'otage.
Bordel. On l'a serré comme un boîte à savon.
C'est à cause de.
Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un.
Eh bien, il est 11h, nous sommes au marché à Tours, messieurs, dames, et nous allons savoir un petit peu l'esprit des Tourangeaux à propos de ce sujet brûlant, la façon qu'a le ministère de divulgâcher les enfants de l'école maternelle avec ce fameux projet qui est la cancoyotte. Nous n'avons pas vraiment plus d'infos, il s'agit comme qui dirait... monsieur, est-ce que vous êtes au courant de cette cancoyotte, ce projet
qui... Si je suis au courant, mais vous pensez bien. Mais oui, ça y est, ils en ont donné à ma cantine, ils ont passé leur menace à exécution, ils en ont donné à la cantine, à mes chiards. Alors est-ce que vous avez ouvert une boîte de cancoyotte ?
Mais tout à fait, et ça vous pose problème, monsieur ?
Mais c'est l'enfer à la maison, ils ramènent, je ne peux plus parler en face de mes enfants, tellement leur haleine est fétide. hein, on leur donne à manger. C'est
très bien. Vous en avez mangé également, monsieur.
C'est du sabotage de la...
Vous en avez mangé également, monsieur.
Du maroilles.
Oui, voilà. Très bien, monsieur.
C'est du sabotage de la cellule familiale.
J'ai maintenant un primeur qui est vraiment entouré de fruits et légumes. Monsieur, la cancoyotte comme projet ministériel, qu'est-ce que vous en pensez?
Bonjour, ma petite dame. Alors, la cancoyotte, non seulement c'est pas facile à dire, mais en plus, ça se marie très bien avec les poires. J'en ai ici une demi-douzaine pour vous, si vous voulez, qui sait à tremper dans cancoyotte. Vous les trempez en dips, allez hop, c'est pour vous, c'est cadeau.
Très intéressant.
Sinon, vous avez des petites tomates aussi. Est-ce que vous voulez des petites tomates? Elles sont à 15 kilos.
Des poires à la cancoyotte, c'est extraordinaire. Et en me... Tenez, bah, excusez-moi, je rencontre un élu, monsieur. Excusez-moi, là, je suis obligée de vous poser la question. C'est Radio Campus, monsieur, vous êtes au micro de Radio Campus. Qu'est-ce que vous pensez du projet de la cancoyotte?
Eh bien, écoutez, moi, en tant que franc-comtois d'origine, je trouve que c'est une merveilleuse idée. La cancoyotte, c'est un fromage sain, c'est un fromage liquide qui se tartine facilement, qui est facile à emporter, qui tient au frigo dans un petit pot. Donc je trouve qu'il est important que nos enfants, eh bien, aient le goût de la France dès le plus jeune âge. Car vous savez, madame, aujourd'hui, nous nous faisons coloniser, et oui, par les fromages anglais, les fromages italiens, les fromages néerlandais. Donc je trouve qu'il est important de garder les vraies valeurs, les valeurs françaises, avec ce fromage liquide qui en plus est à l'ail, donc c'est un produit bien de chez nous.
Très bien, et bien, voilà la... David, vive le fromage liquide, vive les enfants et vive la cancoyotte.
Eh bien, merci, c'est très éclairant d'écouter le peuple, hein. On apprend énormément de choses. Il est 21h59, nous rendrons l'antenne avec un tout petit peu de retard, parce qu'on l'a pris avec un tout petit peu de retard. Et sans plus tarder, nous allons passer à une nouvelle chronique. Tenez-vous bien, il s'agit de l'improblème. Alors l'improblème, ce sont nos experts qui sont là pour vous aider. Alors cher public présent dans le studio, je vais vous demander s'il vous plaît une maladie bénigne.
La varicelle.
La varicelle, un légume.
Poireau.
Le poireau et enfin une émission de télévision.
On n'est pas couché.
On n'est pas couché. Très bien, merci. Eh bien, nos experts sont bien là pour vous aider. Nous avons reçu sur notre boîte mail une demande d'un auditeur qui se demande si sa varicelle pourrait être due à l'injection récente de poireaux en intraveineuse pendant la rediffusion de On n'est pas couché.
But is there a problem?
Allô?
Un problème.
Un problème?
Allô?
Le meilleur spécialiste.
Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce.
Allô? Pour vous conseiller.
On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher.
Alors Jean-Michel, il y a trop de Jean quelque chose ici. Jean-Michel, vous êtes expert santé à Radio Campus Tours. Alors cet auditeur, est-ce que c'est grave son injection de poireaux pendant la rediffusion de N'est pas couché? C'est à cause de ça qu'il a la varicelle?
Alors cher David, ce n'est pas grave si c'est pris à temps évidemment. Alors cette question, ça fait déjà 3 fois que je la vois, c'est pour cette raison que il est bien que nous en parlions ce soir. On a vite fait de faire l'amalgame entre la varicelle et l'injection de poireaux. Alors je tiens à rassurer nos auditeurs qui sont atteints de cette varicelle, le poireau n'est en rien coupable de cette varicelle. Déjà, on écarte le poireau. Par contre, second point qui est là beaucoup plus fâcheux est quand même le fait de regarder On n'est pas couché.
Alors oui, d'ailleurs, pour répondre à cette question, Jean-Pierre, notre expert média, doit nous dire un mot de cette émission bien connue.
Alors On n'est pas couché est une émission...
Oui, non, allez-y, enchaînez.
Est une émission, merci de me laisser la parole, est une émission qui se déroule tout au cours de la nuit où on n'a qu'une envie, c'est de se coucher, mais on essaie de lutter pour rester éveillé face à des propos de chroniqueurs infects.
Alors j'entends là l'avis du médecin, effectivement, mais je me tourne bien donc vers Jean-Pierre, hein, Jean-Pierre Péclot,
oui,
qui est notre expert média, oui, ici à Radio Campus.
Oui.
Jean-Pierre, vous avez regardé l'intégralité des émissions On n'est pas couché?
Oui, alors j'étais vraiment désireux de répondre à notre auditeur et j'ai voulu procéder à une expérience empirique. Je me suis moi-même injecté du poireau en regardant l'émission. Alors, je peux rassurer notre auditeur, je n'ai aucun symptôme de la varicelle. Par contre, David, je plane. C'est... Le poireau, j'aurais jamais cru.
Oh, j'entends ça, ça c'est presque inquiétant. Peut-être un dernier conseil pour notre auditeur. Qu'est-ce qu'il doit faire maintenant qu'il a attrapé cette varicelle? Alors, on le rassure tout de suite, ça ne vient pas du poron intraveineuse. Hein. Vous pouvez continuer sans exagération, hein. On voit les effets indésirables. Qu'est-ce qu'on peut lui conseiller pour soigner cette vilaine varicelle?
Alors David, je pense qu'il faut, ne faut pas arrêter les émissions polémiques comme ça, parce que les conséquences peuvent être désastreuses. Il faut déjà commencer par des émissions polémiques deux jours, déjà pour diminuer un petit peu la dose, puis diminuer les doses jusqu'à arriver aux amours le midi, où là je pense qu'on peut être guéri quand on arrive à ce stade.
Merci beaucoup. Eh bien, il est 22h03, et c'est la fin de notre émission. Alors, je tenais quand même à lire devant vous les mots qui n'ont pas été retenus ce soir sur Internet. RIP à ces mots. Boulgour, pédalo, possé sur 6, pétroline, concomitant, curling, patémat, workshop, concept, finkelkraut d'une rare violence, boule, épilation et anesthésie. Je suis vraiment désolé pour ces mots, mais il y aura d'autres occasions, nous en sommes sûrs. C'était Les Improgrammables, l'émission qui prend l'antenne. Avant de savoir pourquoi, je tiens à remercier nos quatre impronalistes, Suzy Salami, Jean-Pierre Pecno, Jean-Marc Moramidi, Jean-Michel Aplati, André à la technique, bien sûr, pour sa première. Le public nombreux dans le studio, Radio Campus Tour, bien sûr, qui nous accueille. Alors, quelques dates rapidement. Le Tour Impro Club se produira avec Impro École au Pirate Bar, anciennement le campus rue du Grand Marché à Tours, le mardi 12 novembre à 20h30, entrée gratuite. Et le TIC sera aussi en match le samedi 30 novembre à Véretz au profit du Téléthon. Et en ce qui concerne les improgrammables, ne ratez pas la prochaine émission. Le lundi 18 novembre à 21h, pétante, on sera à l'heure et en direct. Et d'ici là, toutes les actus sur la page Facebook, @le Tour Impro Club, et le podcast qui arrive bientôt. Merci à tous, bonne nuit, bonne soirée.